s'ennuie. C'est l'heure de Galet Jade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Galet Jade. Je suis Geoffrey et je serai votre animateur pour les 55 prochaines minutes. Comme dans chaque émission de Galet Jade en fait. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas venu dans le studio, ça faisait un mois. J'espère que je vais pas me planter, j'espère que je vais bien tout allumer, parce que bah, vous connaissez mon professionnalisme légendaire, c'est un peu compliqué à des fois, même pour les mots. Donc là aujourd'hui, j'ai tout vérifié deux fois et normalement tout va fonctionner. Donc, la fin de la saison est proche, pour le moment tout se passe bien pour moi, j'ai encore quelques invités qui sont dans ma besace, mais on va pas pouvoir tout faire cette année. Donc on va voir pour l'année prochaine si je continue ou non. Quel format aura Galet Jade, est-ce que ce sera toujours Galet Jade ou autre chose, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, je reçois un nouvel invité. Il est auteur de bande dessinée, il vient de sortir le tome 6 de la série Tanguy et la Verdure classique, aux éditions d'Argo Zéphyr, qui s'appelle donc Trac au Canada. Je reçois Mathieu Durand, comment vas-tu ?
Eh ben très bien Geoffrey, très bien.
Oh, j'ai même réussi à allumer ton micro du premier coup. Je suis vraiment en forme ce soir. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va écouter le premier son de l'émission. C'est un son d'un artiste local qui s'appelle Teenage Bade. Le titre, c'est « I was good with being alone ». Et on revient juste après pour démarrer.
I was waiting.
Et voilà, c'était donc Teenage Bed avec, je vais me rappeler du titre, I Was Good With Being Alone, pardon, si t'écoutes, je suis désolé d'avoir bouffé le titre en retour antenne. Vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa, et je suis toujours en compagnie de Mathieu Durand. Donc comme je le disais, tu es dans Galéjade pour parler du tome 6 de Tanguy et la Verdure classique, Trac au Canada. Mais avant de rentrer en détail dans Tanguy et la Verdure, on va un petit peu parler de ton parcours, Mathieu, si t'es d'accord.
Eh bien, je suis d'accord.
Donc, tu as travaillé d'abord sur Air Blues 1947, Rafale, Team Rafale, et enfin, donc maintenant, comme je le disais, Tanguy et la Verdure classique. Tous ces albums traitent d'aviation. Est-ce que c'était pour toi une obligation de traiter de l'aviation pour te lancer dans la BD? Ou c'est grâce à la BD que tu t'es découvert une passion pour l'aviation?
Alors, j'étais passionné d'aviation depuis que j'ai eu ma tendre enfance, peut-être bien 8 ans, mais j'ai découvert l'aviation en lisant de la BD d'aviation. Donc, c'est mes lectures de BD qui m'ont amené à la passion pour l'aviation. Et après, la passion d'aviation qui m'a permis de rentrer dans la BD. Mais c'était un choix. Moi, je voulais faire de la BD d'avion, quoi.
D'accord.
Dessiner des avions à défaut de les piloter. en vrai, je voulais les piloter sur le papier pour raconter des histoires avec ces belles machines.
Ok, mais alors tu disais tu lisais de la BD d'aviation quand t'étais petit, donc tu lisais quoi comme type de bande dessinée d'aviation à l'époque?
Bah à l'époque, en bande dessinée d'aviation, contrairement à maintenant, il n'y avait quand même pas grand chose. Mm-hmm. On naviguait entre Bugdani, Tanguy la Verdure, Dan Cooper.
C'est
à peu près les trois grandes séries. Sachant que je suis pas très vieux, hein, même si je dessine une vieille BD, je me considère pas vieux, hein, 44 ans, ça va.
Non, ça va.
Mais la BD Tanguy la Verdure existait déjà depuis longtemps, Bugdani aussi, Dan Cooper aussi. Okay. Et donc à mon époque, il y avait plus que vraiment Bugdani qui continuait d'exister sous le crayon de Francis Bergès.
D'accord.
Donc c'était essentiellement cette série que je lisais. Et les Tanguy la Verdure, c'était à côté, et en étant resté sur Uderzo.
Ok, d'accord.
Mal à passer à JG et tout ça.
Ok. Donc, pour toi, ça a direct été une envie de travailler dans la bande dessinée. Quel parcours t'as suivi pour te lancer dedans?
Alors, un parcours plutôt autodidacte, même si j'ai fait des études d'art. J'ai fait une fac d'art plastique. Mais c'était plus, je me suis demandé, j'ai fait lycée scientifique, enfin bac S à l'époque, et puis bah, après pour pouvoir faire de la bande dessinée, j'ai parti plus sur trouver un métier,
okay,
pour me dégager du temps et dessiner à côté, essayer de me faire connaître dans le milieu petit à petit et pour... Donc j'avais imaginé percer à 40 ans à peu près. Je m'étais dit ça va être laborieux et j'ai réussi à percer beaucoup plus tôt quand même. Donc,
ouais, parce que ça fait quand même plusieurs années que...
Bah, Air Blues 47 est sorti en 2007.
D'accord.
Donc, et le fait d'avoir voulu faire de la bande dessinée d'aviation a peut-être été une aide pour que je rentre assez tôt dans ce monde-là, puisque la maison d'édition chez qui j'ai travaillé, Zephyr BD,
okay,
était une maison d'édition qui publiait des gros livres de photos d'avions.
D'accord.
Et il s'est spécialisé, enfin il a voulu se diversifier dans la bande dessinée d'aviation. Donc il avait besoin de créer un catalogue avec plusieurs titres pour pouvoir exister sur le marché.
Et à l'époque, c'était pas le genre de BD qui était hyper développé.
Alors il est arrivé au moment où ça se développait. D'accord. En fait. À l'époque, il y avait Paquet aussi d'un autre côté.
Ah oui, c'est vrai.
Avec Romain Hugo, où on était tous les deux en même temps sur des forums à essayer de se faire connaître de nos BD. Lui, il est arrivé chez Paquet. C'est même lui qui m'avait dit, bah tiens, vois avec Zephyr, il cherche du monde. Et je suis rentré chez Zephyr. Alors je dirais pas que... Mais il était moins regardant qu'un autre grand éditeur aurait pu l'être sur la qualité des dessins. Disons que après, moi, j'ai appris plus vite à faire de la BD parce qu'on m'a confié une BD à faire.
Okay.
Un peu façon le forgeron qui apprend en forgeant, quoi.
Et t'étais plus à l'aise sur quelle partie? Sur la partie des personnages ou justement sur la partie des avions?
Bah, le souci, quand tu apprends par toi-même, que tu dessines, t'as tendance à dessiner ce que t'aimes.
Ouais.
Du coup, moi, je dessinais plus d'avions. Je me faisais des petites BD. Alors, j'ai fait énormément de BD, mais que des débuts. Des débuts de deux planches, à peu près.
Ouais, mais bon, faut commencer quelque part.
Voilà, il y avait quand même beaucoup d'avions. Et justement, c'est ce qui a posé un peu problème avant de rentrer chez Zephyr. J'avais eu... la porte qui s'entrouvrait de temps en temps et les personnages étaient un souci quoi quand même puisque je les dessinais moins volontairement quoi.
Oui, bah, ouais, comme tu le dis, hein, la passion fait que tu dessines voilà. Ce que t'aimes.
Et puis bah, en rentrant au premier scénario, on se rend compte que même une série d'aviation, il y a 90% de personnages. Donc bah, j'ai souffert. Et quand je rouvre mes BD, les premières BD, ça me fait mal aux yeux.
Ah ouais,
ouais. Très critique, et j'aimerais presque, je me dirais, il faudrait que je les redessine, quoi.
Ah ouais, jusqu'à ce point-là, d'accord.
Alors que bon, la plupart trouvent que ça passe, quoi, mais au niveau proportion...
Ouais, mais bon, c'est pareil, entre le moment où t'as commencé et maintenant, y a aussi l'expérience qui
c'est
fait
ça.
Que...
C'est un métier où on continue à progresser, à faire évoluer son style, et maintenant les personnages, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça devient même, je préfère presque dessiner, en tout cas ancrer des personnages que des avions, quoi.
Ah oui, d'accord. Et t'envisagerais d'essayer quelque chose d'autre que des BD d'aviation ou pour le moment c'est...
Alors j'envisage régulièrement en me disant quand j'en ai marre.
Je vais faire
à
des
peu
sous
près à la fin d'un... Alors non, si je devais aller vers quelque chose, ça serait vraiment complètement... On a tendance des fois à me... Quand on me connaît sans savoir ce que je fais comme métier, et puis que je dis bah, je suis dessinateur de BD, ah, tu fais quoi? Je dessine des avions tant qu'il y a la verdure. Et ils ne s'imaginaient pas que je faisais une bande dessinée, on va dire, sérieuse comme ça.
Ah ouais?
J'étais plutôt, je suis plutôt...
Cubitus
Ouais, voilà, ça aurait été BD grosné. donc peut-être un jour aller vers de l'humour, mais même monde enfantin, BD pour jeunes...
Ouais, ah, vraiment t'essayer, ouais. Si t'avais quelque chose à faire, ce serait
comme
un
ça
truc
en plus en dédicace, j'aurais moins de Jean-Pierre, de Jean-Michel et j'aurais peut-être plus de un public plus jeune. J'embrasse tous les Jean-Pierre et tous les hein.
On va pas se mentir, le public de la bande dessinée est un public qui est majoritairement vieillissant aussi.
Alors vieillissant, puis en plus comme nous, enfin comme moi et Patrice, on travaille sur du classique, c'est-à-dire on le verra tout à l'heure, mais une BD ancienne, et on l'a fait à la sauce ancienne, c'est vrai qu'on va avoir des lecteurs qui recherchent plus un peu leur Madeleine de Proust, donc ont connu la BD quand ils étaient jeunes, donc on n'a pas un public...
Mais donc justement, si on enchaîne, comment t'arrives toi sur Tanguy et la verdure classique?
Ben, en étant rentré chez Zéphyr, en fait, ça a été une succession de bonnes rencontres déjà pour entrer chez Zéphyr, et Zéphyr, l'éditeur, c'est Alexandre Paringo, qui lui... Alors, moi, entre-temps, je me voyais bien reprendre Tanguy la Verdure un jour, quoi.
Ah ouais.
J'ai affiné.
T'avais l'envie qui était déjà là,
ouais,
présente.
C'était, j'aimais bien cette série depuis enfant, mais à la fac, j'avais vu un article sur les repreneurs, justement, de Tanguy la Verdure qui relançait. C'était Jean-Claude Lédin et Yvan Fernandez. Et je m'étais dit, justement, bah, quand eux, ils arrêteront, je reprendrai bien cette série, quoi. Donc voilà, je rencontre Alexandre Paringo qui, lui, son rêve est de publier des Tanguy la Verdure, des Bulles d'Annie. Donc voilà, une succession, lui, a rencontré après Philippe Charlier, qui est le fils de Jean-Michel Charlier, qui était le scénariste de Tanguy la Verdure et de Bulles d'Annie.
Okay.
Donc il a réussi, enfin il a lancé un produit qui était d'abord Bulles d'Annie classique.
Ouais.
Donc à partir de ce moment-là, moi je l'ai tanné pour lui dire, si tu fais un Tanguy la Verdure, tu me mets au dessin, moi je veux que ce soit moi. Et puis quelques années après, il a lancé le produit Tanguy la Verdure classique, et donc il m'a proposé de faire le dessin, mais enfin il m'a fait confiance parce que les BD que j'ai fait avant n'étaient pas du tout ce style classique, dessin très classique. Moi, c'était un dessin plutôt moderne.
Ouais, bah justement, voilà, c'était. Voilà. Ils t'ont jamais envisagé sur la série Tanguy et la Verdure qui bah, parallèle à la classique qui se passe aujourd'hui.
Ben non, parce que au début. Enfin, quand il a été question de lancer le Tanguy la Verdure classique, la Tanguy moderne existait déjà. Il y avait toujours Jean-Claude Lédin et Yvan Fernandez dessus.
D'accord.
C'est après où ça s'est arrêté et puis que Sébastien Philippe est arrivé. Mais non, eux n'y ont pas pensé. Moi, j'y ai pensé à un moment.
D'accord.
Mais c'est quand les jumelles étaient... j'ai des jumelles.
Okay.
Donc elles sont nées, mes jumelles, elles étaient bébés, elles ne dormaient pas la nuit. Donc un manque de sommeil, de lucidité, j'étais prêt à tout plaquer ce que je faisais en me disant « je vais essayer de faire Tanguy la Verdure ». Et puis j'ai repris un peu mes esprits, je me suis dit que ce que je faisais actuellement était bien. C'était à l'époque où j'étais sur Rafale Leader.
Okay.
Et aussi que j'avais commencé à dessiner un peu Tanguy la Verdure de mon côté et c'était pas top.
D'accord.
Parce que c'est quand même un travail de se reprendre des personnages comme ça.
Donc, et justement, tu as dû rencontrer Uderzo pour la reprise. Comment ça s'est fait cette rencontre ?
Alors la rencontre s'est passée après la reprise.
D'accord.
En fait, Uderzo n'a plus de... Donc a été le dessinateur qui a créé les personnages. A arrêté au bout de 8 albums, je crois, pour laisser sa place à JG parce qu'il était accaparé par Astérix et Obélix. Sa main commençait déjà à lui faire souffrir un petit peu et le dessin de Tanguy est très exigeant au niveau détail, beaucoup plus que du Astérix. Qui est,
ouais, on est dans quelque chose de très réaliste là.
Voilà, ouais. Et par la suite, il a cédé ses droits à la famille JG.
Okay.
Qui, à son tour, plus tard, l'a cédé à la famille Charlier. Donc, il n'y avait plus qu'un ayant droit pour décider de l'avenir de Tanguy la Verdure, qui était la famille Charlier, la personne de Philippe Charlier. Et donc, je n'avais pas officiellement à avoir l'aval de Uderzo pour faire ça. Par contre, nous, que ce soit moi, Patrice Buendia, le scénariste, ou Alexandre Paringo, l'éditeur, l'approbation morale, on la voulait quoi. Donc, à la sortie, un petit peu avant la sortie de l'album, on l'a rencontré pour lui présenter notre travail.
Ok.
À savoir qu'il avait demandé à voir les planches en amont avant de rencontrer l'équipe.
Ah, d'accord.
Pour voir. Donc on s'est dit qu'à partir du moment où il a dit qu'il voulait bien nous rencontrer, c'est que
le travail lui convenait déjà.
Et après, c'est ce qu'il a, il nous a redit quand on l'a rencontré. Il était heureux de. Que ces personnages revivent comme à son époque, parce qu'il lui tenait vraiment à cœur, ces personnages-là.
Eh ben c'est une très bonne chose.
Ouais.
Avant de continuer, on va écouter le son que tu as choisi, Mathieu, justement.
Uh-huh.
C'est Psycho Killer des Talking Head. Je le lance et on revient juste après. Si j'arrive à le lancer, voilà.
Better run, 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 run away.
Et voilà, c'était donc Talking Heads avec Psycho Killer. Vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 et je suis toujours en compagnie de Mathieu Durand. Mathieu, pourquoi ce choix musical ?
Eh ben, parce que c'est une musique que j'aime bien. Déjà, premièrement, petit A. Et puis, une musique que j'avais dû entendre il y a longtemps, ou en tout cas redécouvert pendant que je dessinais, en écoutant une autre chaîne de radio.
Hein, mais t'as le droit d'en parler. Voilà. Hein.
Donc FIP, pour ceux qui font partie du fan club de FIP, je suis avec vous. Et j'écoute, parce que j'aime bien quand je dessine, entendre de la musique, mais pas faut pas que ça parle.
Ouais.
Sort, donc, et par contre, dès que je rentends une musique, soit que j'aime bien ou que j'aimais bien et que je me rappelais plus, je vais vite me noter. Et Psycho Killer faisait partie de ça. Et puis après, c'est devenu une musique d'amis qu'on écoute beaucoup en soirée. Si elle revient pas en soirée avec les copains qu'on se retrouve, c'est rare quand même. voilà, elle donne la pêche. Et puis il y a une autre version qui existe, je me demande si c'est pas The Fool, je sais plus, qui faisait Psycho Chicken.
D'accord.
Qui est encore plus barré.
Ok, je connaissais pas.
Et voilà, donc musique que j'aime bien, mais...
Et c'est un très bon choix. Donc, on en revient à Tanguy et la Verdure. Donc, au scénario, tu travailles avec Patrice Buenda. Comment ça se passe, votre collaboration ?
Eh ben, ça se passe bien, là aussi. Ça, c'est très bon. Des fois, dans des duos dessinateurs, scénaristes, ils se mettent ensemble par leur propre chef.
Ouais.
On nous a mis ensemble pour travailler sur Tanguy la Verdure. Et le courant est très bien passé. Donc, c'est vraiment agréable de travailler avec lui. Je pense qu'il dirait la même chose. Après, au niveau travail, lui, c'est le scénariste, moi, le dessinateur, mais ça, on se contente pas.
Vous n'êtes pas figé dans vos cases.
Non,
quoi,
voilà.
Vous échangez.
Dès l'écriture du scénario, lui, il va me demander si, par exemple, il y a des choses que j'aimerais dessiner dans Tanguy la Verdure, parce que moi, je suis passionné d'aviation. Lui, il aime l'aviation, mais il n'est pas passionné. Donc, et après, quand on a choisi le thème, il va me considère un peu comme un conseiller technique sur
D'accord.
tout ce qui est aviation. Je vais lui amener des idées mais vraiment propres à ce qui se passe dans les avions. Toute l'histoire brodée autour, c'est lui qui s'en occupe, ça.
Et quand tu reçois le scénario et que toi tu commences à faire ton storyboard, est-ce que tu lui renvoies pour que lui valide?
Alors, je lui envoie à chaque étape, ouais. Je lui envoie le storyboard où je lui dis les petits changements que j'aurais pu faire par rapport au découpage qu'il a pu me faire. Il me fait ses retours. Après, les crayonnés, je lui renvoie aussi pour qu'il revalide. Les ancrages aussi. Enfin, c'est vraiment un échange continuel. Donc, on passe. Moi, je lui envoie beaucoup par mail parce que c'est visuel. C'est plus pratique que lui écrire au téléphone. Mais lui, souvent, me rappelle derrière pour qu'on débriefe un petit peu les choses. Et puis, pour parler de plein d'autres choses aussi à côté. Mais ouais, c'est un vrai travail, une osmose. T'as vu ce que j'ai dit, Patrice, sur toi, c'est bien. Hein.
On lui enverra le lien pour l'émission.
Là, tu es mon anémone et moi mon poisson clown.
tu disais, il revient vers toi pour les avions, mais est-ce que c'est lui qui décide quel type d'avion il va apparaître dans l'album ? Il te dit, par exemple, là, pour le tome 6, c'était un hydravion qu'on voit majoritairement. Est-ce que, dès le départ, il t'avait dit que ce serait un hydravion ou ça, c'est vraiment la partie que toi, tu choisis. Tu dis, ouais, moi, j'aimerais bien faire un hydravion dans celui-là.
Alors non, lui, quand il m'a parlé de... Bon, comme le tome 6 est la suite du tome 5,
ouais, c'est des diptyques,
on savait à peu près vers quoi allait se passer le tome 6, dans la forêt. Moi, quand il m'avait dit l'idée de base, alors moi, j'étais parti dans un autre trip où il n'y avait même presque plus d'avions. Il était en mode survie, genre The Revenant.
D'accord.
À dormir dans des carcasses d'animaux, tout ça. En fait, ça aurait été un peu hors sujet. Non, lui, il écrit son histoire en disant ils vont voler dans des hydravions. Et après, c'est moi qui vais faire souvent la recherche sur
le
quel hydravion il pourrait avoir. Là, c'est vraiment un album un peu à part, très aventure. Donc, si on prend sur un autre album où ils vont voler sur avion de chasse. Souvent, c'est l'histoire qui va définir quel avion ils vont avoir. Et puis, leur opposant, c'est aussi pareil, ça va être une question technique. Donc souvent on sent. D'ailleurs, les premiers albums sont été un peu ça. On a là, ça fait trois diptyques qu'on fait sur la série classique. Les avions sur lesquels on volait ont été un peu dictés par ceux que Uderzo avait dessinés.
D'accord.
On a commencé d'abord sur du Mirage F1 là parce qu'on avait adapté une Bibliothèque verte,
ah oui,
écrit par Jean-Michel Charlier. Donc ça se passait sur cet avion. Le tome d'après, ça se passe sur du Mirage 3 parce que c'est l'avion emblématique de Tanguy la Verdure, des Chevaliers du Ciel, du moins à cette époque-là.
D'accord.
Et là, les deux derniers, ils étaient pilotes de SMB2, qui était un avion aussi du troisième album, qui était Danger dans le ciel, donc qu'on tenait aussi à représenter.
Ok.
Même si dans le tome 6, ils l'abandonnent, puisqu'ils partent. Ils partent de la France sans avion. Ils en trouvent là-bas.
Mais donc, en fait, ouais, vous vous référencez quand même à la série classique, enfin, la série mère, aux premiers albums. Est-ce que c'est aussi dans le but de pas se planter sur quelque chose, ou est-ce que tu peux avoir des vrais connaisseurs qui viennent te voir en tant que passionné d'aviation lors de séances de dédicace ou quoi, quelque chose d'autre, et te dire, ah là, cet appareil-là, vous auriez pas dû le faire, parce qu'en fait, quand on vous dit que ça se passe en telle app... C'est pas possible. Ou...
Ah oui, alors ça, sur toutes les séries d'aviation. Hein.
Ah ouais?
Ça, on a ce qu'on appelle. Nous, on appelle ça des pinailleurs. Alors, il y a différents degrés de pinaillage. Hein, mais il y en a. Il y a du gentil pinaillage aussi. Quelqu'un qui va dire, ah bah, vous êtes fait une erreur, mais qui va pas l'écrire sur tous les forums où ils peuvent l'écrire. Donc, ça, c'est agréable. Après, notre choix de se mettre dans cette période, elle n'est pas dictée pour ne pas commettre d'impair, parce que dans D'accord. toutes les périodes, on pourrait en faire. Bon, comme moi, je suis passionné, j'arrive à j'étais un peu pinailleur, moi, mais...
Donc, tu as déjà la connaissance de savoir quel appareil est à peu près actif à quelle époque, quoi.
Voilà. Donc, nous, on s'est placé dans cette date-là, dans cette période-là, parce qu'on est attaché au dessin du Derzo, sur Tanguy la Verdure. Donc, dans le cahier des charges, on a dit la série classique se passera sur la durée où Uderzo a dessiné. Donc globalement, ça va de 1959, qui était la date de la première parution, de la première planche dans le magazine Pilote, jusqu'en à peu près 70-71, parce que le premier album de Tanguy Classique qu'on a fait, l'adaptation du roman de Bibliothèque Verte, lui se passait en 71. Donc là, on était déjà JG.
D'accord.
On l'a traité façon Uderzo, mais voilà, on va dire qu'on est les années 60.
Ok.
Donc on se place là-dedans, et en s'intercalant dans les albums qui ont déjà été dessinés, parce qu'on ne peut pas le faire pilote d'un certain appareil à la fin des années 60, alors que ce que Uderzo a dessiné était passé à un autre.
Ok.
Peut-être qu'on en viendra, si la série télévision les Chevaliers du Ciel, qui date des années 60, chanté avec le générique chanté par Johnny Hallyday. Il y a beaucoup de gens, peut-être que tu ne connais pas.
Ah non.
Non, alors qu'en dédicace, moi, il y a beaucoup de gens qui connaissaient la série. C'était vraiment une série du grand public dans les années 60.
Ok.
Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, donc voilà. Mais une belle série avec Christian Marin qui faisait le rôle de la Verdure.
Ok.
Et Jacques Santi, Tanguy la Verdure. Et voilà, dans cette série, eux, alors là, c'était un peu... ils passent d'une escadrille à une autre, un avion à un autre.
Oui, ça change.
Peut-être que quand on aura sorti plein d'albums et qu'on sera bloqué dans ce qu'on s'est fixé, on fera un petit peu ce genre-là pour dire nos trucs. Mais là, on essaye d'avoir quelque chose de sérieux niveau aéronautique.
Et si on en revient au personnage, toi, graphiquement, lequel a été le plus difficile pour toi à faire ? Tanguy ou la Verdure ?
Alors, le plus dur au début, ça a été Tanguy. Tanguy, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si on lui mettait une petite mèche qui tombe sur le front, ça pourrait être Clark Kent.
Ouais, voilà, clairement.
Donc, lui était assez compliqué parce qu'il a un petit nez grec, je crois, on dit, là, quand ça descend sur le front directement, et puis qui finit un peu en trompette.
Ok.
Et ça joue des fois à quelques millimètres si l'œil, il est un tout petit peu trop haut,
le personnage ou chose.
Donc ça a été beaucoup de travail pour l'appréhender, lui. Je m'étais fait une photothèque de tous les visages de Tanguy que Uderzo avait dessiné pour voir comment il les traitait. Mais maintenant, je dirais que c'est la verdure qui me donne le plus de mal.
D'accord.
Parce que la verdure, alors, il a des grandes oreilles décollées, des petits yeux, un grand nez, un grand menton. Il est très caricatural.
Ouais, c'est il ça dénote,
que j'aime. Voilà.
Dénote dans
c'est ça que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que... Eh ben, il y a un côté caricatural, c'est pas que du dessin très très sérieux quoi. Et du coup, comme il a plein d'expressions, quand il est surpris, il est vraiment surpris, un peu genre Tex Avery quoi. Alors que Tanguy, lui, il est un petit peu surpris.
D'accord.
Même si intérieurement il est beaucoup surpris, il est un petit peu surpris. Donc la verdure, il faut faire plein d'expressions qui sont.
Ouais, tout est exagéré.
Voilà. Okay. Donc il me donne plus de mal maintenant.
Ok. Et quand tu fais tes planches, comment tu procèdes? Tu dessines case par case ou d'abord tu vas faire sur ta planche tous les personnages, puis ensuite tous les avions et continuer comme ça? Enfin, c'est quoi ta méthode de travail?
Alors, bon, déjà, Patrice, lui, me fournit un découpage case par case. Je sais où je vais. Il me donne même des angles de vue que je ne suis pas forcément parce que j'ai besoin d'être libre. Mais souvent, ça, on retombe à peu près sur ce qu'il avait dit. Et j'ai besoin d'avancer case par case, planche par planche. Je sais qu'il y a des auteurs qui peuvent faire. Bon, après, Patrice, moi, me fournit souvent 4 planches. Puis quand j'ai dessiné les 4 planches, il m'en redonné 4.
Ah oui, il attend que tu aies fini d'abord les 4 premières planches plutôt que.
J'ai pas tout le découpage. Ouais. Et moi, je vais pas faire tout mon board. J'ai besoin d'avancer. Comme si je lisais l'album, en fait.
Okay.
Ça, c'est peut-être un des choses avec lesquelles je suis déçu, c'est que c'était des BD que je lisais.
Ouais.
Et maintenant que je l'ai fait, je peux plus les lire. Je les connais. Alors en les dessinant comme ça, très chronologiquement, j'ai un peu l'impression de les découvrir. Mais ouais, j'arrive pas à sauter d'un dessiner la planche. Même quand j'encre ma planche, j'y vais vraiment case par case. Je fais pas tous les yeux, tous les traits.
Ok. Ouais. L'ancrage, je comprenais plus, mais c'était plus pour le dessin. Je me disais peut-être que t'avais besoin de structurer d'abord. Tes persos, puis ensuite... casse par casse...
La planche est relativement déjà structurée au moment du board.
Ok.
Le board, c'est l'étape qui est la plus fatigante, on va dire, psychologiquement, parce que faut réfléchir à... C'est pas juste une succession de cases, c'est... En plus, moi, je dois avoir une moyenne de 10-11 cases par planche, donc c'est assez énorme. C'est un gaufrier à l'ancienne, il n'y a pas trop de place à faire une grande case qui sorte, tout ça. Donc, il faut réussir à créer un mouvement dans quelque chose de très figé. Et donc, c'est là que des fois, il faut réfléchir, plus dire, il y a une scène avec de l'intrigue, enfin, du danger, donc il faut que j'utilise une plongée. Donc, c'est assez casse-tête. Donc, une fois que ça s'est fixé, on va dire, le reste, c'est presque du détaillage, quoi.
Ok. Je vois le temps qui passe, on va passer au son suivant. C'est un son que j'ai choisi, c'est un artiste qui s'appelle Maxence, le titre c'est Du Mal. Je le lance et on revient juste après.
Toi et mon poing dans ta face. T'inquiète pas, je te jure, ça masse. T'es bon à marier mes doigts. Je sais pas si tu le conçois. Ta mâchoire est prête à prendre son envol. T'inquiète, c'est le protocole. Tu as les yeux derrière mon dos. Tu as les mains qui traînent trop. Tu as la bouche pleine de seuls mots. Tu as la tête d'un salaud. Chance que je perds, comprends le bien, tu m'emmerdes. Pas, comprends juste que j'en ai marre. Y'a aucune chance que je perds, comprends le bien, tu
Et voilà, c'était donc Maxence avec Du Mal. Vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3. Et on attaque avec la partie des références de l'invité. Donc Mathieu, avant l'émission, je t'ai contacté pour te demander quelques œuvres de référence. Ce que j'appelle des œuvres de référence, c'est des choses que tu peux regarder, écouter, lire quand ça va, quand ça va pas. C'est un petit peu tes petites Madeleines de Proust à toi. Donc on va commencer par un film. Quel est pour toi le film que tu peux regarder pendant la séance photo de Delphine? Ouais.
Alors, il peut y en avoir, peut y avoir pas mal de films que je peux regarder. Après, j'ai des films cultes.
Hein, et bah vas-y.
Que peut-être je peux plus trop regarder tellement je les ai regardés. Hein. Ah. Le principal, c'est quand même La Cité de la Peur.
Oui.
Parce qu'en plus, on le vit un peu au quotidien. Dès qu'il y a un petit mot, bah, hop, on rebondit directement dessus. Donc, je vais peut-être trop regarder maintenant, il faudra que j'attende un petit peu. Mais j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y a 39 ans, il y a un film, un autre film culte que j'ai, et il est sorti il y a 39 ans, c'était Les Goonies.
Ah oui.
Ça, c'est un film qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai un petit personnage dans mon bureau, je me suis fait une petite étagère avec plein de petits objets décoratifs. Et dessus, il y a le petit Sinoc, qui est le personnage un petit peu qui fait peur, quoi.
Ok.
voilà, mais après, en film, ça va être... Il y a des films que je peux... Si je tombe dessus en zappant, ouais. Je vais regarder jusqu'au bout. Alors, c'est très hétéroclite. Hein, ça peut, il y a du Forrest Gump. Il n'y a pas longtemps, il y a eu Les Évadés.
Ah oui, très bon film aussi.
Donc, j'aime bien les films où, positifs, plutôt, même avec du négatif dedans, mais qui se finissent bien. J'aime bien les happy ends. J'aime pas les films stressants.
D'accord.
J'aime pas le stress.
les films à suspense.
Voilà, ça, enfin, avant, je pouvais...
Cette branche d'horreur qui est voilà. Plus dans...
J'aime le gore.
C'est le gore, c'est pas pareil. Voilà. Ça te choque pas, quoi.
Non, bon, c'est ça, mais... Il y a des séries qu'on a essayé de commencer aussi, et dès qu'il y a des gens mal à l'aise dedans, bah, j'arrive pas à regarder, ou des personnages qui commencent à s'engluer dans un mensonge qu'on sait que ça va amener des problèmes. Et pourquoi il le fait ? Ça, moi, j'y arrive pas.
Mais tu vois, justement, la prochaine question, c'était les séries, et comme t'enchaînes un peu sur ça, il y a une série dont on m'a parlé dans l'émission, où est-ce qu'on m'a dit Le Petit Renne sur Netflix ? Ou est-ce que c'est un humoriste un peu raté, d'après ce que j'ai compris, qui se fait harceler par une femme? Eh ben tu vois, rien que le pitch de l'histoire me dit, je vais pas regarder, parce que ça a l'air trop glauque pour moi.
Ouais, j'aime pas. Moi, j'ai besoin de... En fait, quand je regarde un film ou une série, c'est très rare les séries, parce que même si maintenant, sur on peut citer Netflix, il existe des séries de court format, mais... Moi, j'ai besoin de quelque chose qui va s'arrêter, qui va pas durer trop longtemps. Ou alors, sinon, il faut vraiment que j'accroche et puis que c'était défini dès le début. Parce que avant, on était. Avant les ères Netflix et tout ça, je crois qu'une a dû me dégoûter, c'était Lost. J'ai commencé en étant bien. Voilà, j'étais jeune, j'aimais bien les séries. Je faisais pas grand chose le soir à part regarder la télé. Et voilà, je me suis dit, mais ça devient n'importe quoi. On est des vaches à lait un petit peu.
Et donc aujourd'hui, en série, c'est plus quoi, t'as quoi ?
Alors, je regarde vraiment pas beaucoup. La dernière qu'on a regardée, c'est quand même Breaking Bad, parce qu'on nous a dit c'est vraiment bien, faut regarder. Je fais partie des gens qui n'ont pas vu Game of Thrones aussi. J'avais pas vu Breaking Bad. Et on s'est dit, on va le regarder. En plus, si on devait me demander une série culte, moi, ça serait Malcolm.
Ouais.
Okay. Donc, je crois que tout ce que fait le papa de Malcolm, j'aime.
Ok. Bryan Cranston, voilà.
Voilà. Je te disais tout à l'heure que j'arrivais pas à me rappeler des prénoms. J'ai regardé avant de venir et tu vois, j'avais le Brian, mais plus l'autre. J'aurais dit Canson en tant que dessinateur. Pas... et donc, bien accroché Breaking Bad. Des fois, beaucoup de saisons quand même. Enfin, beaucoup d'épisodes pour moi.
Ouais.
Mais heureusement qu'il y avait le personnage. En plus, on flirtait avec le gars qui fait des trucs, on sait que ça va lui amener des problèmes. Mais bon, ça passait bien. Ça a tellement bien passé qu'on a enchaîné sur El Camino ou El...
Le film.
Ouais, le film sur l'autre. Et comme j'avais adoré le personnage de Saul Goodman dedans...
Better Call Saul.
Voilà, on a enchaîné dessus. Et je dois avouer, je pense que j'ai préféré Better Call Saul que...
Ah ouais ?
Ouais.
J'ai pas regardé Better Call Saul parce que justement j'avais peur d'être déçu.
Ouais, bah moi j'ai vraiment aimé... le personnage, peut-être parce qu'on sait déjà un petit peu comme les remakes de Disney, tout ça, où les méchants, en fait, ils ont été gentils avant. et lui, c'était un méchant, et on disait, il était gentil, comment il en est arrivé là. Un peu comme dans Breaking Bad, des fois, il peut y avoir un peu des longueurs, surtout si ce soir-là, quand on le regarde, on est un peu fatigué, ou choses comme ça, mais j'ai vraiment aimé, quoi. J'aime bien Erin Brockovich. J'aime bien les choses d'avocat qui réparent l'injustice un peu. Bon, là, Saul Goodman, il répare pas vraiment l'injustice, mais c'est drôle, le personnage est bien.
En termes de musique, si je devais te demander une chanson.
Alors, quand tu m'avais demandé pour Psycho Killer, j'avais visité avec une autre.
Ouais.
Mon épouse m'avait pensé que j'aurais choisi l'autre.
Ah,
qui est Space Odyssey de David Bowie.
Ok, oui, c'est vrai.
J'ai redécouvert David Bowie assez tardivement. J'étais pas un grand fan quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai du mal avec la nouveauté, donc j'aime bien les musiques que je connaissais déjà d'avant. Et David Bowie, j'ai redécouvert, et j'apprécie beaucoup Space Odyssey, qui m'a un côté aéronautique, hein, quand même l'histoire de Major Tom, un astronaute. Donc on reste là-dedans, mais c'était aussi une musique qui m'a fait aimer dans un autre film. J'aurais pu te parler, c'est La Vie rêvée de Walter Mitty.
Ah, j'adore ce film.
Et dedans, la BO quand son amoureuse l'encourage
à sauter dans l'hélicoptère.
Voilà, alors dans ses visions,
oui.
Et elle interprète Space Odyssey. Et le méchant patron l'appelle Major Tom parce qu'il est toujours un peu dans la lune. Donc je crois que quand j'ai vu ce film... Alors en plus, le film est génial, quoi.
Ouais, honnêtement, ouais.
Une belle histoire avec Sean Penn aussi. Hein, donc, mais voilà, qui rassemble pas mal de trucs que j'aime bien. De l'action, mais pas trop lourde, quoi. Une belle histoire.
Et puis le personnage est hyper attachant. Ouais.
Et puis on parle de Times, du passage au numérique, de la photo argentique avant, tout ça. Donc, j'aurais pu. S'il repasse ce soir, là, si je me... en rentrant, je me mets devant la télé, qu'il repasse.
Je l'ai à la maison, je pense que, tu vois, je vais peut-être me le remater en rentrant aussi. Ouais. Le temps passe si je te demande une BD.
J'ai eu du mal à me remettre sur la BD parce que je la regarde d'un œil critique.
Ouais.
Enfin, pas vraiment la BD, mon travail par rapport à la BD que je lis.
D'accord.
En me disant, peut-être les syndromes de l'imposteur. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas, mais enfin, on l'a tous un petit peu. Mais j'ai relu il n'y a pas longtemps Retour à la Terre, Combat Ordinaire.
Ah bah, je suis en train de lire le Combat Ordinaire.
Les Célarsenella, j'ai bien aimé Blas. J'ai pas encore lu l'adaptation de.
De la route.
De la route, que je veux toujours dire Le Chemin. Je ne sais pas pourquoi je veux dire Le Chemin, c'est la route. J'ai besoin d'un petit peu d'humour dans mes chansons,
ouais.
dans mes BD à lire, et vraiment quelque chose dans un autre style que je dessine, en fait.
Ok, je comprends. Ouais. On arrive au dernier son de l'émission, déjà. Donc le dernier son de l'émission, c'est un son de Leila Wiswood qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil. Son album La Maladresse vient de sortir. On écoute ce son, on en parle juste après.
Sors les solaires, évidemment, les écouteurs et puis va-t'en sur la place et dans les rues. Cul en terrasse, inaperçu, je tripe sur le gars qui lèche sa glace. En regardant partout autour, déjà envahi par l'angoisse d'alourdir ses poignets d'amour. Le charme des types qui croient sûrement qu'on les voit pas, et justement les mal à l'aise, les maladroits, c'est mes préférés à moi. Mes petits passants, mes petits papas, poussettes aux mains, bagues aux doigts, tout attendris par leur merveille, j'en profite, un, deux, trois. Soleil, mes petits paumés, qu'on raté l'âge, où il fallait se mettre en ménage, qui ont trop picolé la veille, j'en profite, un, deux, trois. Soleil, cheveux grisonnants, qui se clairsèment, les pluies du temps qui font les cernes, l'air convaincu d'être tout seul à porter sa vie sur sa gueule. Si elles savaient comme je les aime, quand je mets mes lunettes sans gêne, on dira que je les surveille. Un, deux, trois, soleil. Les marques de bronzage mimolettes des montagnards qui tout l'été ont bronzé de partout sauf des pieds. Allez savoir, ça me fait de l'effet ceux qui cultivent l'art ancestral de tout miser sur la stache, les professionnels du poil. J'avoue, sur moi ça marche, puis celui qui se prend la porte vitrée de l'opticien du quartier, les mal réveillés, les perdus, se doutent jamais que je mate leur cul. Mes petits passants, mes petits papas, poussettes aux mains, bagues aux doigts, tout attendris par leur merveille, j'en profite, un, deux, trois. Soleil, mes petits paumés, qu'ont raté l'âge, où il fallait se mettre en ménage, qui ont trop picolé la veille, j'en profite, un, deux, trois. Soleil, cheveux grisonnants, qui se clairsèment, les plus du temps qui font les cernes, l'air convaincu d'être tout seul à porter sa vie sur sa gueule. Si vous saviez comme je vous aime, quand je mets mes lunettes sans gêne, on dira que je vous surveille. Un, deux, trois, soleil, messieurs, dans mes bras.
C'était donc Leila Wiswood avec Chuck 1, 2, 3 Soleil. Vous êtes toujours dans Galéjade, c'est la dernière partie de l'émission sur Radio Alpa. Nous attaquons les recommandations culturelles avec Mathieu. Oh. Alors, les recommandations culturelles, c'est juste, est-ce que tu, pour finir l'émission, pour clôturer, tu aimerais recommander quelque chose que tu as vu, lu, écouté récemment? Pas forcément quelque chose qui vient de sortir, mais quelque chose que tu as découvert et que tu te dis « Ah, ça serait une belle découverte pour les auditeurs et auditrices. »
Ah, je ne l'avais pas vu comme ça quand tu m'as parlé. C'était un truc qui allait arriver. Et tu vois, j'aurais parlé de plein champ. Alors, d'un autre côté, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, le festival plein champ.
Ouais.
On l'a découvert l'an dernier.
Et c'est Bilal Hassani, je crois, la tête d'affiche cette année.
Alors moi, je le vois plus côté street art que musique.
Ok.
Ce qu'on était. J'aime bien tout ce qui est street art. Mais pareil, si tu me dis, ah bah, quel auteur tu préfères, je saurais pas vraiment te dire. Je suis un consommateur qui va pas jusqu'au fan à chercher des choses, quoi. Je regarde ce que j'aime bien et puis c'est comme ça. Mais donc, le festival plein champ qui est quand même un.
Qui aura lieu quand?
Eh ben, c'est le week-end du 6-7 juillet. Enfin, d'accord. Ça commence même le 5. Et puis, l'an dernier, on l'avait fait la journée pour voir les œuvres se faire. Puis, on était retourné.
Toi, tu participes tard. Pas?
Non, non, non. Je suis incognito. Mais si on veut me reconnaître, ça ne me dérange pas. Mais alors, l'avantage, c'est que là-bas, c'est ça qui est bien. On y va, on pourrait dire, tout seul et on retrouve plein de gens qu'on connaît.
Oui.
et de tous âges. Enfin, c'est vraiment, j'avais vraiment apprécié ça, ce melting pot qu'il y a là-bas. Ça permet de faire une belle balade dans le parc. Et puis après, s'arrêter sous les grands chapiteaux. Justement, l'an dernier, on n'avait pas fait la soirée. Cette année, c'est ce qu'on compte faire. Y aller plus en fin d'après-midi.
Et passer la soirée là-bas.
Passer la soirée, manger.
J'ai quelques anciens invités de Galéjade qui ont participé à plein de choses. Latiziano, un artiste qui expose à Paris maintenant beaucoup. Et Karl Gou aussi. Qui sont toujours les bienvenus dans Galéjade s'ils ont envie de revenir. Mais ouais, le festival, c'est un très bon festival plein champ. Pour ma part, moi, la petite recommandation culturelle, c'est une série que je regarde en ce moment sur Disney+, qui me laisse... Enfin, c'est une série que je suis depuis des années qui s'appelle Doctor Who. C'est la nouvelle saison avec Nsuti Gatua, qui est plutôt un excellent docteur, je trouve. Mais j'ai l'impression que, comme ils ont raccourci le temps des épisodes, on creuse pas assez les histoires. Enfin, ça va trop vite pour moi dans les histoires. On est passé d'une cinquantaine de minutes à des épisodes de 40 minutes. Et ben, ces 10 minutes-là, mine de rien, pour moi, ils permettraient de développer un petit peu plus les épisodes. Mais bon, ça mis à part, c'est une série que je trouve excellente. Et l'acteur qui a repris le rôle du docteur est vraiment très très bon aussi.
Et est-ce qu'il y a plein d'histoires entre les personnages ? Parce que des fois dans les séries, c'est ce qui m'embête. Il y a une bonne série avec, par exemple, on va dire genre Esprit Criminel.
Ouais.
Où c'était vraiment l'intrigue. Et après, c'est les interactions entre les personnages qui prend le dessus sur l'intrigue.
Alors,
et qui évacue le...
Dans Doctor Who, tu as ce truc, c'est un voyageur du temps et de l'espace. Donc il a toujours un ou une compagnon qui l'accompagne. À part ces deux personnages-là que tu vois tous les épisodes, le reste du temps, il y a quelques épisodes où tu vas revoir des anciens,
mais ouais, sinon mais c'est presque des...
C'est toujours limite des one-shots.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Et bah, ça doit être... Ce qui fait que t'as des épisodes qui sont excellents et des épisodes qui sont un peu moins bons, je trouve. Mais ouais.
Avec toujours même réalisateur ou des fois ils font venir d'autres personnes.
Là, c'est le même scénariste sur quasiment toute la saison. Il y a 8 épisodes. Il n'y a que 2 épisodes qui n'ont pas été scénarisés par le même gars, qui est le showrunner de la série.
Peut-être que là, c'est parce qu'il y avait la grève des scénaristes.
Mec, non, parce que c'est une série anglaise.
Ah ouais.
Donc, c'est un bon renouveau de série, hein, je persiste là-dessus, mais qui me laisse un petit goût d'inachevé. Enfin, il nous reste un épisode pour voir la fin de la saison, à voir comment sera ce dernier épisode. Donc, vous pouvez retrouver Mathieu, enfin l'album de Mathieu, Le Tanguay et la Verture, tome 6. Qui s'appelle Trac au Canada, voilà, j'avais bouffé, qui vient de sortir aux éditions donc d'Argo Zephyr. Tu as déjà commencé la suite, Mathieu ?
Oui, j'ai commencé la suite.
Nouveau diptyque en préparation ?
Tout à fait, on avancera toujours en diptyque, ça permet de développer un peu les intrigues. Un album, c'est un peu court des fois.
Ça marche. Bah donc vous pouvez retrouver les albums de Tanguy Laverture classique dans toutes les librairies, notamment la librairie Bulle, partenaire de l'émission, bien évidemment. Vous pouvez retrouver Mathieu sur Facebook.
Oui.
Oui, c'est ta page.
Alors, je la connais pas par cœur, mais c'est genre Mathieu Durand, dessinateur de BD. Un truc D'accord. original. Et puis un bonhomme chevelu assis dans un cockpit d'avion, c'est moi.
Les gens feront des recherches et te retrouveront facilement.
Ouais.
Quant à moi, vous pouvez retrouver donc galéjade_émission sur Instagram, galéjade.émission sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site de Radio Alpa et sur toutes les applis de podcast. Si vous écoutez le direct, on vous laisse avec Delphine pour Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, c'est donc Oblique qui passe sur l'antenne de Radio Alpa. Et si vous écoutez le podcast, honnêtement, écoutez ce que vous avez envie. Ça fait toujours plaisir de réécouter un épisode de Galéjade. Passez une bonne fin de journée. Bonne soirée à toi, Mathieu.
Et bonne soirée à tout le monde.
Et à très vite.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie ?
C'est l'heure de guerre.